Interview.
'Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio de RDWA pour une ultime émission, Bruno Monnier, géobiologue installé à Saillan depuis l'été 2013, avec qui nous avons fait un passionnant cycle sur la maison saine, dans lequel nous avons évoqué les ondes électromagnétiques basse fréquence, les ondes haute fréquence, la qualité de l'air et le radon. Et aujourd'hui, nous allons consacrer cette ultime émission à la géobiologie pure et à la détection des rayonnements telluriques. Monsieur Monnier, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour nous autres béotiens, qu'est-ce que la géobiologie et peut-être aussi qu'est-ce que la détection des rayonnements telluriques?
Oui, donc jusqu'à présent, toutes les autres émissions, on a parlé de thèmes, effectivement, où on met en évidence des polluants, des perturbations par le biais de mesures, on va dire, scientifiques, avec des appareils de mesure. Là, c'est un sujet tout autre puisqu'on va mettre en évidence des perturbations qui viennent du sol. C'est pour ça qu'on appelle ça des rayonnements telluriques ou des perturbations telluriques puisque ça vient du sous-sol. Et ces perturbations, évidemment, posent problème sur le vivant et donc à notre propre corps. Et on va pas les mettre en évidence à l'aide d'appareils scientifiques, mais à l'aide de ce qu'on appelle la détection sensible, qui est une technique un petit peu très semblable et très proche de celle qu'utilise le sourcier pour faire la recherche de sources traditionnellement. Donc on utilise cette même technique, mais qui est évidemment un peu plus développée et affinée, qui nous permet de détecter plus de choses. Et donc on va relever un certain nombre de rayonnements qui peuvent être effectivement donc une source d'eau toute simple. Ça peut être une veine d'eau profonde, ça peut être une faille, donc une fissure dans la roche, une faille géologique. Et ça peut être également ce dont on va évoquer tout à l'heure, ce qu'on appelle les réseaux telluriques. J'expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est. Et donc toutes ces perturbations complètement invisibles et imperceptibles, excepté pour les personnes très sensibles, eh bien on va les relever sur un site et puis faire en sorte ensuite dans l'aménagement de son logement de les éviter le plus possible en fait, tout simplement.
Je vous prie de m'excuser de vous interrompre monsieur Monnier, mais ceci dit vous n'avez parlé que de perturbations. Or certains auteurs comme Raven Snow qui en parle avec la vouivre dans ce cycle de constructeur de cathédrales dans l'ancien temps évoque le fait qu'il y a certains endroits qui sont plutôt auspicieux et bénéfiques pour la santé. Donc n'y aurait-il de ces rayonnements telluriques que des perturbations et non pas des endroits sympathiques qui nous ressourcent?
Alors c'est une remarque très juste. Effectivement, dans les rayonnements telluriques, dans ce qui nous vient du sol, il y a des choses qui vont être vraiment très perturbantes pour le vivant et d'autres qui vont être favorables au vivant, tout à fait. Moi, mon travail, étant donné que c'est le domaine de l'habitat, de la maison saine, de l'habitat sain, effectivement, pour créer un habitat sain, on va diminuer ou éviter notre exposition aux perturbations et aux zones nocives. Donc, en fait, je me focalise principalement sur ces veines-là, afin que les habitants, les occupants d'une maison, les évitent le plus possible. Mais effectivement, dans mon travail, il m'arrive aussi de détecter des zones particulièrement bénéfiques pour le vivant et pour nous, et que du coup, je vais mettre en évidence et signaler comme un lieu potentiel pour la méditation, pour se ressourcer, pour différents phénomènes. Mais l'important est quand même de signaler les endroits les plus « méchants » entre guillemets et de les éviter. Par rapport à la référence que vous faites des anciens constructeurs qui ont utilisé toutes ces énergies dans les constructions de chapelles, ça remonte même très loin parce que moi je viens de Bretagne et effectivement on a donc un des sites mégalithiques les plus passionnants du monde avec le site de Carnac et tout ce qui s'y trouve autour. Et donc ces constructeurs ont utilisé ces énergies telluriques pour placer ces objets, ces pierres. Mais à contrario, on ne vit pas dans une chapelle ou on ne vit pas dans une église. Ces objets, ces endroits sont destinés à une chose très particulière qui n'est pas d'y habiter. Voilà, ce sont des lieux qui sont sacrés, qui sont destinés à des rituels particuliers, du passage de l'enfant à l'adulte, du passage de la vie à la mort, de l'union entre deux hommes. Enfin voilà, c'est pas un endroit d'habitation. Moi, dans le logement, effectivement, je me concentre sur les endroits qui peuvent perturber les occupants et, on va dire, diminuer leur état de santé. Mais, effectivement, on peut trouver des endroits très favorables à la vie et, du coup, en profiter quand c'est le cas. Ouais.
Alors, pour revenir à notre sujet, hein, comment vous expliqueriez ces rayonnements telluriques. Est-ce que c'est parce que la Terre vit et ce fameux noyau en fusion qui est au centre de la Terre, ça dégage? Et pourquoi y aurait-il plus de dégagement quand il y aurait des sources, des failles géologiques, des veines d'eau et certains réseaux dont vous allez sans doute nous parler?
Oui, alors il y a plusieurs phénomènes qui peuvent se cumuler. Après, scientifiquement, on va dire purement scientifiquement, on n'a pas beaucoup de réponses par rapport à ça. Pourquoi ça perturbe le vivant? Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, des cellules, etc.? Ce qu'on peut en dire pour simplifier un petit peu le sujet, c'est que une faille, une veine d'eau, de l'eau qui passe, même de l'eau sur, on va dire, pas forcément profonde, mais en surface, perturbe le champ magnétique terrestre. Il faut considérer ce champ magnétique terrestre. Voilà, on est sur une planète qui réagit un peu comme un aimant. Et donc, il y a un champ qui est uniforme, qui est continu, avec lequel nous, vivants, nos cellules se sont construites au fil des millénaires, et encore aujourd'hui, évidemment. Donc ce champ est relativement uniforme à la surface de la Terre. Donc toutes ces zones, failles, eaux, enterrées, etc. vont créer une perturbation légère hein, de ce champ magnétique terrestre. Mais cette perturbation, nous, on l'a subie. Et elle va, évidemment, c'est pas en y passant quelques heures de temps en temps qui va poser problème. Mais si en y passant, ben non, un bon moment de sa vie, donc notamment la pièce qui nous intéresse le plus, c'est la chambre à coucher, étant donné qu'on est en plus à l'horizontale, donc on va subir davantage cette perturbation, eh bien au fil du temps, va fatiguer le corps et peut, au bas mot, créer une fatigue chronique, et puis peut-être voilà, des états de santé difficiles, voire même certaines maladies. Par contre, on a quelques retours de vétérinaires, donc là ce sont plus des études qui sont faites associées à des élevages. Ça existe notamment beaucoup en Bretagne, une association s'occupe essentiellement des élevages et de la géobiologie, on va dire, dans l'agriculture. Voilà, il est très facile avec des analyses vétérinaires de se rendre compte que des animaux placés à tel endroit sur une veine de perturbation vont déclencher certaines maladies, certains symptômes, des fausses couches, des quantités de leucocytes dans le lait trop importants, etc. Et que dès l'instant où on les met dans une zone neutre non perturbée, tout de suite ça va mieux. Enfin, ça, c'est vraiment en quelques jours, le problème se règle. Donc on a vraiment une réalité de ce phénomène.
Et on peut pas suspecter les animaux de mentaliser, voire de créer des problèmes à partir de rien.
Alors voilà, c'est exactement l'avantage de ces études vétérinaires, c'est que les animaux n'ont pas d'a priori, ils ne psychotent pas, voilà, soit ils ressentent quelque chose, soit ils ne ressentent pas, donc il y a vraiment une espèce d'objectivité, on va dire, avec les animaux. Et effectivement, il y a quelques études sur ce plan-là qui sont nées en Bretagne, enfin pas que, mais très claires en fait. Hein, et voilà, ça démontre ce que nous, on peut expliquer et annoncer. Et ensuite, dans cette problématique, il y a effectivement ce qu'on appelle les réseaux telluriques. Alors, il faut faire la différence entre les rayonnements qui sont liés donc à une veine d'eau, à une fissure, donc on va dire à une géographie. Donc c'est un peu aléatoire, il y a des endroits où il y en a beaucoup, des endroits où il y en a un petit peu moins. Et puis les réseaux qui sont constants à la surface du sol, donc... ces réseaux, alors les plus connus, quelques personnes connaissent peut-être ce nom, il y a le réseau Hartmann et puis le réseau Curie, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup, puisque ces réseaux sont issus des métaux qui sont en fusion au cœur de la planète, dans le cœur magmatique. Beaucoup de métaux sont en fusion avec une forte majorité de fer et puis de nickel, et puis après beaucoup d'autres métaux comme l'aluminium, etc., le cuivre, l'uranium, enfin tout un tas. Et chaque métal en fusion, donc là c'est une règle scientifique, chaque métal en fusion émet un rayonnement et il semblerait que c'est ce qu'on peut détecter sous cette forme de réseau. Donc on parle de réseau parce que ça a une forme régulière. Donc si on prend le cas du réseau Hartmann, ça crée à la surface du globe un quadrillage qu'on pourrait imaginer pour les auditeurs comme un filet de pêche sur la surface du globe, avec des mailles qui font entre 2 mètres sur 2,50 mètres, donc des rectangles grosso modo assez réguliers comme ceci, et avec une bande donc, qui serait la fibre qui compose cette maille d'environ 20 cm. Donc un croisement de ligne Hartmann par exemple, ça fait 20 cm sur 20 cm. Et ce réseau, évidemment, on le croise partout, on en retrouve partout, donc il n'y a pas de nocivité propre et dure comme ça. Mais les croisements, effectivement, donc quand on fait un test de biochamp, peut-être que j'expliquerai ce que c'est, on voit tout de suite la différence de l'aspiration de ce biochamp, c'est-à-dire de la baisse du tonus ou de la vitalité du corps quand on est sur un endroit comme ça. Donc si on y passe 8 heures par jour pendant son sommeil, eh bien on va s'affaiblir petit à petit, tranquillement. Et puis il y a un autre réseau qu'on va étudier qui est le réseau Curie, qui est semblable au réseau Hartmann, à la différence qu'il est en diagonale, oui j'ai pas bien précisé, mais le réseau Hartmann est aligné sur les points cardinaux, donc il est orienté nord-sud et est-ouest, et le réseau Curie est en diagonale de ce réseau. Je ne saurais pas dire pourquoi ce réseau est en diagonale, mais nous, on le détecte comme ça. Et effectivement, on peut aussi trouver du coup des superpositions de ces croisements. Donc un croisement Hartmann superposé à un croisement Curie. On appelle ça, c'est un nom particulier, on appelle ça un point étoile. Donc là, c'est un point vraiment géopathogène, hein, c'est-à-dire un lieu qu'il faut vraiment éviter. Et puis, bah, superposer, pourquoi pas, une veine d'eau à autre chose. Hein. Donc ce sont des rayonnements qui sont différents, mais qui peuvent effectivement se superposer et créer voilà, un point, un lieu, pas très large dans l'habitation, mais qu'il faut absolument éviter, en tout cas de passer du temps dessus, donc essentiellement de dormir, et puis sa chaise de bureau si on travaille beaucoup à la maison, ou son canapé si on passe beaucoup de temps dans son canapé.
Je vous prie, excusez, j'ai pas encore très bien compris en quoi une veine d'eau ou une source crée cette perturbation. Et une petite question subsidiaire, est-il vrai qu'une rivière en dessous d'une maison, comme en dessous d'un moulin, crée des perturbations? Enfin, est-ce que c'est vrai?
Oui, alors... Je repars de ce champ magnétique terrestre qui est uniforme. Il faut imaginer un aimant, donc le champ magnétique de l'aimant, il est uniforme, il est linéaire. Et le champ magnétique terrestre, il est de nature comme celle-ci. Mais dès l'instant où on a de la ferraille dans le sol, on peut avoir donc une fissure dans une roche, de l'eau dans un sol, va perturber ce champ magnétique. Au lieu d'être uniforme, il fait comme ça. Donc là, j'ai fait un geste, évidemment.
Ouais, il est un peu biaisé, quoi, c'est ça, il est un peu tordu.
Voilà. Alors ça, par contre, scientifiquement, ça se mesure. Hein, il y a un appareil qui s'appelle le géomagnétomètre terrestre, donc c'est un appareil qui mesure ce champ magnétique terrestre, donc pour vous donner une idée, il est de l'ordre de 500 mgauss, le champ magnétique terrestre uniformément, et donc cet appareil, on avance tout doucement, il y a une sonde qu'on met à ras le sol, on avance quasiment centimètre par centimètre, et puis on va pouvoir mesurer cette perturbation qui peut être générée. Alors là, on ne sait pas par quoi, mais on va voir cette perturbation. Donc ce que nous on pratique par la détection, on pourrait éventuellement le mesurer avec un géomagnétomètre terrestre, excepté que cet appareil est un appareil qui est assez coûteux et la mesure est très laborieuse et très longue parce qu'il faut vraiment avancer tout doucement pour vraiment voir cette perturbation. Et du coup, on ne peut pas définir qu'est-ce qu'il y a dessous. On peut voir la perturbation, mais sans définir ce qu'il y a dessous. En tout cas, ce que l'eau génère ou ce qu'une fissure génère, c'est une perturbation. Alors, ça peut être aussi le cas d'une, encore une fois, d'une ferraille. Donc, par exemple, si on a un terrain et que une ancienne cuve est enfouie, eh bien, cette cuve en fer va perturber le champ magnétique terrestre. Et même pour nous, si jamais on construit une maison sur cette cuve, parce qu'on ne le sait pas, eh bien, cette perturbation, on va la subir en tant qu'être vivant.
Donc, c'est exact qu'un moulin sous lequel passe un cours d'eau souffre de perturbations électromagnétiques.
Oui, alors c'est souvent le cas. Alors bien souvent, le moulin, bon, on sait qu'il y a de l'eau, donc bon voilà, il y a une connaissance, alors que quand on construit n'importe où, on ne peut pas savoir s'il y a de l'eau qui passe dessous. Et puis généralement, l'eau avec un moulin, bah, l'eau elle est à fleur d'eau, c'est un ruisseau, et donc le moulin est souvent à côté. Hein, donc on peut dormir à côté d'une rivière, etc. C'est pas du tout la même chose que dormir au-dessus d'une veine d'eau ou au-dessus d'une faille géologique. On peut avoir une maison à côté d'un lac donc, ou d'une rivière, etc. Alors là, on peut avoir une autre pollution dont j'ai déjà parlé, qui peut être l'humidité dans le logement, mais on ne va pas forcément ressentir cette perturbation comme quand on dort au-dessus d'un endroit pareil.
Alors, vous avez évoqué le géomagnétomètre terrestre en disant que non seulement c'était très minutieux, mais je crois savoir que c'est aussi un engin assez imposant. Donc, ce n'est pas forcément comme ça que vous repérez ces perturbations électromagnétiques?
Non, effectivement, il y a des géobiologues qui utilisent cet appareil, mais encore une fois, le travail avec cet appareil est vraiment laborieux et long, et il ne dit pas qu'est-ce qui génère cette perturbation. Il dit, voilà, l'appareil, on regarde les chiffres, et puis à un moment donné, les chiffres bougent, donc on dit, il y a une perturbation du champ magnétique terrestre sans définir ce que c'est. La technique que nous on emploie, donc c'est la technique de la détection sensible, donc j'utilise ce qu'on appelle les baguettes parallèles, donc ce sont deux baguettes en L en laiton qu'on tient une dans chaque main. On marche avec les baguettes parallèlement comme ça et elles se croisent quand elles donnent la réponse à la question qu'on pose dans sa tête. Voilà un peu le fonctionnement. Donc la question que moi je cherche quand je fais cet exercice, c'est je recherche la nocivité la plus importante d'un lieu, d'une habitation ou d'un terrain à construire. Je recherche une nocivité, hein. Je ne recherche pas moi spécialement de l'eau ou une faille ou une cuve enterrée ou quoi que ce soit. Je recherche une nocivité, peu importe d'où elle vient. Après, évidemment, je peux préciser et définir s'il y a de l'eau, pas de l'eau, à quelle distance, enfin, comme un sourcier, parce que le travail est sensiblement pareil, sauf que on va plus loin, c'est un peu plus précis, on va détecter les réseaux telluriques dont je viens de parler, ce que le sourcier ne fait pas, on va pouvoir chercher d'autres phénomènes plus positifs dont on parlait tout à l'heure, ce que le sourcier ne fait pas, etc. Mais en tout cas, la technique, la sensibilité est identique. Je tiens à préciser aussi que ce travail avec les baguettes parallèles, la détection sensible, ce n'est pas un don, on est tous capables de le faire. Moi, j'ai suivi une formation qui m'a appris à faire ça. Et ce centre de formation sort environ 15 à 25 élèves par an. Et ces élèves, à la base, ne détectent pas. Et à la sortie, on détecte tous de la même façon. Donc ça, vraiment, ça s'apprend. Après, il peut y avoir évidemment une transmission d'un savoir pour les sourciers de père en fils ou de grand-père en petit-fils. Mais en tout cas, c'est simplement une technique qu'on peut apprendre puisqu'on est tous sensibles. La différence, c'est que on a perdu, nous, la lecture de cette sensibilité avec notre vie moderne. Donc, notre corps ressent des choses en fonction de l'endroit où on se trouve, mais on ne sait pas lire ce ressenti, hein. Et les baguettes parallèles ou le pendule, eh bien, c'est un outil qui va permettre de visualiser ce ressenti du corps, tout simplement. Voilà la technique, en fait, hein, pour l'expliquer un peu comme ça, la plus simple possible.
Donc, une toute petite description de comment cela marche. Vous vous promenez avec vos baguettes en ailes et vous marchez en vous posant cette question, quel est l'endroit le plus nocif? Les baguettes réagissent, elles se croisent, si je ne m'abuse.
Oui, alors elles se croisent, évidemment, elles ne se croisent pas tout seules. Des baguettes qu'on attacherait à un filin, qu'on ne tiendrait pas, et puis qu'on, même avec cette pensée, ça ne marcherait pas, puisqu'elles se déplacent, donc elles se croisent, parce que moi je les tiens, et parce qu'à un moment donné, mon corps réagit à la question que je me pose. Hein, et donc la réaction, elle est infime, elle est microscopique, mais elle fait bouger suffisamment ses baguettes pour qu'on voit ce mouvement, alors que quand on essaye de marcher, enfin ça m'arrive de faire des petits stages d'initiation comme ça pour comprendre un peu comment ça marche, et c'est déjà compliqué de marcher sur un terrain ou dans une habitation en gardant les baguettes parallèles, donc il faut déjà se forcer à garder les baguettes parallèles, donc on faut imaginer qu'on marche en gardant les baguettes parallèles, mais en se forçant en les gardant parallèles et qu'à un moment donné elles vont croiser, à l'encontre de notre volonté presque, hein.
Alors, il faut quand même dire que c'est peut-être sans doute l'émission la plus polémique. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez dit, je pense, était validé par la science. Aujourd'hui, hein, cette détection sensible, ce qu'on retrouve chez les sourciers, comme vous l'avez dit, n'est pas validé par la science, que je sache.
Alors, c'est pas que c'est pas validé par la science, c'est surtout que la science s'est très peu intéressée à cette technique, à ces méthodes, a beaucoup critiqué, a pris ça un peu à la rigolade. Il faut quand même savoir que quelques scientifiques se sont vraiment pleinement intéressés à ces choses. On peut citer Robert Andros, qui est un biophysicien allemand. Andros, donc ça ne s'écrit pas comme les compotes, hein, pour ceux qui veulent rechercher sur Internet, ça s'écrit E-N-D-R-O-S. Et donc c'est un biophysicien qui a cherché à rendre scientifique la réalité de la perturbation biologique. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Donc au niveau de certaines glandes, comme le thymus, la thyroïde, etc., quand on est une zone de perturbation. Donc là, il y a des écrits scientifiques très très clairs sur ce qui peut se passer. Et ensuite, sur les techniques de détection, il y a un autre physicien, là du coup français, qui s'appelle Yves Rocard, qui est le père du fameux politicien Michel Rocard, un physicien reconnu, hein, et qui s'est longuement intéressé à ces techniques de radiesthésie, donc de détection, on va dire, que ça soit au pendule, aux baguettes, et qui a élaboré des théories donc scientifiques sur ce qui peut se passer, comment ça marche et pourquoi ça marche. Et après, effectivement, il y a très peu de scientifiques, ça intéresse pas grand monde parce qu'il y a aucun intérêt financier, de dire tiens, la détection c'est très efficace et ça pourrait servir à pas mal de choses. Ceci dit, moi et d'autres, des sourciers, on travaille avec des foreurs par exemple, et puis quand on trouve de l'eau à 65 mètres et que le foreur trouve de l'eau à 65 mètres, je veux dire, il en trouve pas à 15, il en trouve pas à 45, mais si on dit qu'il y a de l'eau à 65 mètres, il y a de l'eau à 65 mètres, et généralement, enfin, même si évidemment il y a une petite marge d'erreur, des fois ça peut être à quelques mètres de différence, mais même à des profondeurs importantes, à 2 ou 3 mètres, on est bon, quoi. Donc on a le résultat direct là, il n'y a pas de souci, quoi.
Alors vous parlez de détection sensible, hein, c'est parce que vous utilisez effectivement une sensibilité du corps qui est effectivement sans doute assez difficile à quantifier. Néanmoins, vous connaissez la théorie quantique, l'observateur change la réalité selon qu'il l'observe.
Oui.
Éventuellement, un jour, vous êtes mal luné, vous êtes réveillé du mauvais pied, vous avez mal aux reins, etc., vous êtes de mauvaise humeur. Est-ce que ça pourrait altérer vos recherches?
Alors oui, c'est juste aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une part de subjectivité activités de la nature, voilà. Et effectivement, alors moi ça fait partie un peu de mon professionnalisme, hein, dans le sens où si je fais une détection dehors mais que les conditions sont pas favorables, il y a trop de vent, trop de pluie et que je peux pas détecter correctement, bah je préfère annuler et puis revenir un autre jour où il fait meilleur. Si je me sens malade et mal fichu, je préfère aussi annuler. Effectivement, il y a une part où quand on détecte, il faut être pleinement présent, il faut être en forme et pas penser non plus à être je sais pas moi, à mon fils qui est malade ou je ne sais quoi. Il faut être vraiment pleinement là, sinon ça ne marche pas bien, ou alors effectivement la détection va être faussée. Donc là après c'est une question de protocole, de travail et puis de professionnalisme simplement. Mais ça m'est arrivé plus par mauvais temps, parce que s'il y a trop de vent, ça peut être quand même un peu problématique la détection. Donc mais ça m'est arrivé d'annuler, enfin en tout cas de reporter une détection parce que c'était pas le bon moment. Oui, ça arrive.
Bon, alors et maintenant, donc vous avez un petit peu répondu à la question de savoir comment ça nous affectait, hein. Ça veut dire que c'est pas flagrant, mais ça peut nous empêcher de nous ressourcer, surtout si on dort, etc. Un endroit qui est néfaste. Mais encore la même question que je pose souvent, c'est comment évaluer la dangerosité de ces perturbations ? Est-ce que c'est un petit peu grave, moyennement grave ou très grave ? Comment évaluer la dangerosité de ces perturbations ?
Alors, c'est une bonne question et c'est pas très facile d'y répondre. Ce que je peux répondre, nous on évalue par une autre technique de détection, donc évidemment ça vaut ce que ça vaut. Mais on peut évaluer la nocivité d'un lieu, d'un objet ou d'une chose par ce qu'on appelle, je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure, par la mesure du biochamp. Le biochamp, c'est en fait un écho de ce qu'on peut appeler l'aura. Donc il faut savoir que l'aura, c'est notre enveloppe énergétique ou l'écho de notre énergie vibratoire, on peut dire ça comme ça, pour laquelle aujourd'hui on peut faire des photos, hein. Il y a des techniques, il y a même des appareils, on peut avoir des images sur ordinateur, enfin ça se fait sans problème, les Russes sont très en avance là-dessus. Et donc on peut faire une photo de votre aura. Donc moi, je n'utilise pas cet appareil, mais même si ça existe, mais j'utilise donc la détection de votre biochamp. Donc c'est un écho de cette aura. Et donc cette aura va réagir constamment à votre état de santé, à ce que vous avez mangé, à l'endroit où vous êtes, etc. Donc elle a tendance à, évidemment, se dilater quand on est en bonne forme ou quand on est dans un endroit riche ou très, très haut en vibration, et a tendance à se rétracter, donc à se rapprocher de votre corps si vous êtes malade ou êtes dans un endroit un peu pénible. Donc on peut facilement, en mesurant cette aura, donc le biochamp pour la géobiologie, eh bien on peut facilement savoir le niveau de perturbation d'un endroit. C'est-à-dire qu'on vous place dans un endroit neutre, on fait une mesure de biochamp, et après on vous place sur l'endroit géopathogène et on voit tout de suite comment ça réagit. Donc ça nous donne, ça peut nous donner une évaluation de la nocivité. Après, d'une façon globale, ce sont des endroits perturbants. Donc encore une fois, c'est le temps qu'on va passer sur une zone comme ça. Si on y passe de temps en temps, c'est dans la cuisine, c'est à l'endroit où on étend son linge, c'est sur la terrasse, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est encore une fois, surtout sur le lieu de repos, donc le fait qu'on y soit allongé, le fait qu'on y passe en moyenne 8 heures par jour, chaque jour, et le fait en plus que c'est pas un lieu anodin, c'est pas un lieu où on est réveillé, c'est un lieu où justement on dort et où on est censé se reposer, se ressourcer, et à ce moment-là, sur une zone de perturbation, donc que ça soit encore une fois vendo, faille, point géopathogène lié au réseau, eh bien cette ressource dont notre corps a besoin ne va pas se faire en fait. Et donc petit à petit, donc on peut vivre comme ça quelques temps, hein. On peut passer des nuits, même on peut cumuler 3 nuits blanches par exemple, c'est possible, hein, mais à bout d'un moment on va être vraiment scié, quoi. Et donc ça va être un peu le principe, c'est qu'au bout d'un certain temps, donc ça peut être 6 mois pour certains, ça peut être 2 ans pour certains d'autres, là c'est très aléatoire, eh bien se sentir complètement épuisé, se réveiller fatigué, ne plus répondre à rien, enfin vraiment manquer d'énergie, c'est ça qui peut se passer. Donc voilà un peu la dangerosité, elle est réelle, elle est insidieuse et elle se révèle au fil du temps. Et puis encore une fois, ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des gens qui vont être peu sensibles et cette perturbation va créer un événement au niveau de la santé dans une longue période. Et puis pour d'autres, ça peut réagir assez vite.
Et alors justement, quand vous parliez de calculer le biochamp dans un endroit auspicieux, dans un endroit géopathogène, quel est le pourcentage de variation d'un biochamp d'un endroit à l'autre ?
Alors,
de 30% de notre potentiel physique.
Ça peut être même plus que ça, hein. Mais de la même façon, un endroit très positif, donc une chapelle bien construite, une mégalithe ou je ne sais quoi,
ou une forêt virginale.
Oui, ça. Alors bon, on va dire que moyennement, le biochamp d'une personne, d'un individu bien portant, va osciller entre 2 et 3 mètres. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais on va dire la moyenne, c'est à peu près ça. Dans un endroit neutre, et si on est sur une veine, donc après ça va dépendre un peu de la nocivité de la veine, on utilise aussi une sorte d'échelle pour calculer la nocivité, mais sur une veine très nocive, eh bien ça peut descendre votre biochamp de moitié, quoi. C'est-à-dire au lieu d'avoir un biochamp de 2 mètres, vous avez un biochamp d'un mètre, hein, voire moins même. Donc ça veut dire que, enfin, grosso modo, on peut traduire ça comment ? Eh bien que votre énergie vitale est diminuée de moitié quand vous restez sur un endroit comme ça. Voilà ce que ça peut faire. Alors ça, moi, quand je fais des études et que les gens sont intéressés par ce que je fais, j'ai tendance à bien le montrer, ça. Et d'un autre côté, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, on peut trouver un endroit très positif, très chargeant. Et là, votre biochamp, il peut aussi se doubler ou même se quadrupler. Enfin, ça peut même aller très loin. Donc voilà. Et les gens qui sont un peu sensibles ou un peu à l'écoute de leur corps peuvent ressentir ça sans problème. On peut très bien se sentir, voilà, il suffit un peu des fois de se concentrer, de se placer sur un endroit comme ça. Donc voilà, il faut quelqu'un pour vous dire vous êtes sur un endroit bon ou pas bon. Et en se concentrant un peu, en écoutant le corps, on peut tout à fait ressentir soit une sorte d'aspiration, de fatigue, les épaules qui baissent, ou alors le contraire si c'est un endroit très positif.
Voilà, comme d'habitude, monsieur Monnier, nous allons aérer cette passionnante émission avec un morceau que vous avez choisi, qui est...
Oui, alors je voulais vous faire découvrir un groupe local qui s'appelle Back to Clack, mais qui n'a pas fait de CD, donc j'ai pas pu vous amener ça. Donc j'ai amené un disque d'Alain Bashung que j'aime beaucoup, et avec ce titre qui s'appelle La nuit, je mens.
Qui est absolument magnifique et qui se passe un petit peu sur le Vercors, puisqu'il le dit à un moment.
Exact.
Je sais quoi sur le Vercors.
Oui.
Très bien, bah, La nuit, je mens.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Belière, tu t'es pas fait briller. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho.
Vous êtes toujours sur RDWA 107.5 FM et www.rdwa.fr avec Bruno Monnier, géobiologue installé à Saillant. Et nous continuons à parler de la problématique d'un habitat sain, une émission plus particulièrement dédiée à la géobiologie et à la détection des rayonnements telluriques. Alors maintenant, Monsieur Monnier, on pourrait peut-être passer à du concret.
Hein. Oui.
Comment procédez-vous ? Je suppose qu'on va devoir peut-être un peu différencier selon que ce soit du bâti ou un projet de bâti, enfin un oui. terrain nu. Racontez-nous un peu comment vous procédez, sachant que vous m'avez dit qu'avec un géomagnétomètre, c'était très long oui. et très minutieux. Peut-être oui. avec vos baguettes, est-ce plus court, mais justement, décrivez-nous votre démarche.
Oui, alors sur le temps à passer, ça va dépendre un peu surtout de la surface du terrain ou de la surface d'habitation, évidemment. On va dire que pour une habitation standard, donc 150 mètres carrés, et pour un terrain à construire... aussi un peu basique, on va dire jusqu'à 1500 mètres carrés. Juste en détection pure, je vais passer entre 1h30 et 3h. Après, ça va dépendre aussi un petit peu si les clients veulent un rapport d'étude ou pas de rapport d'étude. Je le fais pas systématiquement, c'est à la demande. Alors, dans le cadre d'un projet de construction, évidemment, c'est très préférable d'avoir un rapport d'étude puisque ce rapport d'étude va pouvoir être transmis au constructeur, à celui qui élabore le projet, et donc va pouvoir définir le projet avec cette information supplémentaire. Dans une habitation existante, le rapport d'étude n'est pas obligatoire. Les gens, les clients, souvent à ce moment-là, je leur propose de prendre note de ce que moi je vais pouvoir annoncer. Des fois, certains m'enregistrent avec un dictaphone. Et puis, à ce moment-là, je leur propose aussi de faire des photos, parce que suivant la détection, je pose des choses au sol, donc des petits marquages pour bien voir s'il y a une veine d'eau, etc. Donc là, à ce moment-là, le client va faire des photos. Donc voilà le temps à passer, c'est entre 1h30 et 3h, suivant l'espace et la maison d'habitation. Après, bon, je peux évoquer le coût. Grosso modo, une détection, ça coûte, dans ces standards-là d'habitation ou de construction, ça coûte 180 euros, donc c'est quand même pas très très élevé. Et dans le cadre d'un projet de construction, 180 euros, quand on construit pour 140 000 ou 150 000 euros, ça coûte vraiment pas grand-chose. Et donc le constructeur se retrouve avec le plan de masse du terrain, et avec ce que j'ai pu détecter, donc des fois une veine d'eau, des fois trois, des fois quatre, enfin peu importe évidemment, suivant l'endroit. Et à ce moment-là, le constructeur va dessiner le projet, va l'orienter en fonction de ce que moi j'ai pu détecter, et en essayant évidemment le plus possible de mettre les chambres, d'abord les chambres on va dire, en dehors de ces zones de perturbation, et ensuite la pièce de vie, et puis s'il y a des endroits un peu perturbants, un peu problématiques, et bien plutôt placer à ce moment-là peut-être la buanderie, la salle de bain, le garage, enfin voilà, il va orienter la construction et le projet pour que les occupants soient sûrs d'éviter ces perturbations tout au long de leur vie d'occupant de cette maison.
Mais pas forcément l'endroit où on stocke les légumes qui pourraient se trouver perturbés, remarquez.
Non, parce que de toute façon, on ne pourra pas tout éviter. Il y a forcément des zones de perturbation un peu partout. Par contre, ça m'est arrivé de travailler pour un agriculteur, là c'était en Bretagne, qui stockait des céréales et qui voulait voilà, absolument que ces céréales soient stockées dans un endroit le plus sain possible. Donc on a fait un travail de détection, donc on peut le faire pour plusieurs choses. Mais il y a déjà beaucoup de contraintes dans la construction. Celle-ci, évidemment, l'information que je vais donner, c'est une contrainte supplémentaire. Donc on va surtout s'efforcer de mettre les chambres des enfants et des parents en dehors de ces zones de perturbation tout d'abord, quoi.
Vous avez parlé des constructeurs de maisons, mais ceux-ci, les architectes, voire les bâtisseurs, vous prennent-ils au sérieux ?
Alors, je dirais que oui, ils trouvent ça intéressant. La plupart des architectes que j'ai pu rencontrer aujourd'hui dans le Val-de-Drôme sont sensibles à cette démarche, la comprennent. Certains même déjà travaillent avec des géobiologues, donc ont déjà entamé cette démarche d'habitat sain et puis de connaissance de ces informations. Et d'autres un peu plus, on va dire, traditionnels ne veulent pas, grosso modo, s'embêter avec ces informations supplémentaires. En fait, ils sont déjà, c'est ce qui m'explique, hein, contraints par beaucoup de normes, de réglementations, d'intervenants aujourd'hui au niveau de l'isolation, des réglementations thermiques. Et donc, les informations que moi je peux délivrer en habitat sain sont des informations, voilà, on l'a bien expliqué pour l'instant, pour lesquelles il n'y a aucune réglementation. Donc ce sont simplement de la responsabilité de chacun. Et pour l'instant, ils ne veulent pas trop s'embêter en fait avec ces informations-là. Même si, quand évidemment on leur explique que quand on ne considère pas cette problématique-là, eh ben, on risque la santé des habitants à qui on, pour qui on dessine cette maison. Ils l'entendent bien, mais tant qu'il n'y a pas de réglementation, ils veulent pas y aller. Enfin, certains y vont, hein, encore une fois, c'est certains d'entre eux qui ne veulent pas y aller. Mais c'est quand même problématique parce que quand une maison, on va dire un éco-constructeur, un architecte qui se dit de faire de l'éco-habitat, qui fait une maison bois sans prendre en considération la problématique des champs électromagnétiques, donc, par exemple, hein, ce dont on a parlé, eh ben c'est quand même très, enfin c'est quand même pour moi, je dirais pas criminel, mais c'est vraiment un manque de responsabilité de l'architecte ou du constructeur. Par exemple.
On en revient au fait que si la prise de conscience de certains risques progresse dans notre temps, oui. Il n'en reste pas moins que certains sujets ne sont pas encore validés par les autorités officielles,
oui.
Ne donnent pas lieu à une réglementation, oui. Et donc il y a certaines personnes qui se réfugient derrière ça, mais
exactement.
Alors qu'ils pourraient peut-être effectivement voir, oui. Le bon sens de ce que vous dites.
Exactement, alors ça c'est une maladie nationale, hein. On a plusieurs types qui sont vraiment liés à la France, et ça c'est une maladie, on va dire, nationale, c'est le fait que tant qu'il n'y a pas de règles et de lois qui nous obligent ou qui nous interdisent à faire quelque chose, on ne le fait pas. Mais il y a d'autres pays où, évidemment, ça ne réagit pas comme ça. En Suisse, par exemple, la géobiologie, même si elle n'est pas dans les textes de loi, eh ben, la plupart des constructeurs, beaucoup de constructeurs travaillent avec ces informations-là aujourd'hui. Parce qu'ils savent, ils ont compris que c'était important de le faire et que quand on construit une maison pour quelqu'un, eh bien, c'est bien d'envisager que cette maison soit saine, en fait, tout simplement. Hein, ça paraît comme ça un peu logique, mais pourtant, en France, ça ne l'est pas encore. Donc il y a beaucoup de travail, et donc bah, du coup je remercie aussi RDIWA et puis vous Louis pour pouvoir me permettre d'exprimer aussi ça au grand public et puis peut-être aux architectes et aux constructeurs qui vont nous écouter également.
Juste une petite question supplémentaire, je suppose que ces failles étant situées géographiquement, elles sont perceptibles verticalement, c'est-à-dire qu'une faille qu'on repère dans une maison à tel endroit l'est aussi au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième.
Alors tout à fait, c'est une excellente remarque, effectivement on la ressent, on peut au dixième ou au quinzième étage peut-être sentir une différence au niveau de sa force, de sa nocivité, mais en tout cas on peut la détecter sans problème. Donc effectivement quand on a une maison on va dire un peu ordinaire ou même un petit immeuble avec deux ou trois étages, ça peut pas de soucis, on ressent cette même nocivité qu'on soit au rez-de-chaussée ou au troisième étage. Après, ce dont je voulais parler également, c'était comment on les évite et comment s'en protéger, parce que c'est important de signaler ma méthode de travail, en tout cas comment moi j'ai appris à travailler, et ce qui existe aussi ailleurs, parce qu'il y a plusieurs types de géobiologie, il y a plusieurs écoles, et effectivement, nous, comment je pourrais expliquer ça ? On n'a pas de technique active, c'est-à-dire qu'on définit la source, c'est-à-dire qu'on va identifier une veine d'eau, une faille ou une source, et puis on va faire en sorte que les habitants ou les occupants d'une maison les évitent. Donc soit en dessinant le projet et en mettant les chambres en dehors, comme j'ai déjà dit, dans un projet de construction, ou soit dans un bâti existant, ce qui est évidemment toujours un peu plus compliqué, de déplacer le lit ou des fois de réaménager la maison, puisque par exemple, la pièce qui était un bureau, en fait, est plus intéressante à définir comme pièce de repos et de chambre, et puis à la remplacer et remplacer la chambre par le bureau. Enfin voilà, faire des inversions de pièces par exemple. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais faire des inversions de pièces parce qu'une pièce va être plus favorable qu'une autre. Et donc effectivement, dans le bâti, c'est un petit peu plus complexe, suivant effectivement l'espace, ce dont on dispose. Mais en tout cas, c'est la solution qui nous paraît la plus évidente d'évitement. Hein. Encore une fois, c'est ça qu'on utilise, c'est l'évitement. Parce que ça ne coûte rien, à part de déplacer un lit, généralement. Dans le principe de construction, ça ne coûte pas plus cher non plus. Et qu'on est sûr, à long terme, d'éviter tout le temps cette zone de perturbation. Je précise ça parce qu'il y a effectivement des géobiologues qui travaillent avec des objets de correction, d'harmonisation ou d'amélioration vibratoire d'un habitat. Et l'école dont je suis issu a décidé de ne pas travailler avec ces objets, puisque la plupart, enfin pour beaucoup d'entre eux, et moi j'ai pu le tester effectivement, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont aucun intérêt. Ils ne servent vraiment à rien. Certains de ces objets ont un vrai impact, c'est-à-dire un vrai rôle. Par contre, le rôle et l'efficacité dans le temps n'est pas sûr. C'est-à-dire que ça peut avoir une efficacité pendant 2, 3 ou 4 ans et puis après ne plus être efficace puisque ces objets peuvent se charger de la nocivité en question et jusqu'à un certain stade et là, la rediffuser un peu comme le ferait n'importe quel filtre d'ailleurs classique hein, qui filtre des éléments, des particules de l'air et quand le filtre il est saturé, bah, il relargue ces particules. Et bien, ces objets ont un peu ce fonctionnement-là. Et il y a aussi le fait que quand on agit comme ça sur une nocivité tellurique avec un objet particulier, on ne sait pas ce qu'on peut créer ou générer autour de la maison, donc chez le voisin, à l'étage du dessus, etc. Donc on peut corriger l'endroit de notre client ici et puis créer d'autres perturbations à côté. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas bien en fait. Et dans ce sens, nous, on trouve plus facile, plus honnête et moins coûteux pour le client parce qu'en plus, ces objets, évidemment, chaque géobiologue fabrique un peu son objet. Donc, c'est des fois une forme de pyramide, de menhir, de triskel, de tout ce qu'on veut, en plâtre, en ciment, en résine, enfin bref. Et évidemment, chaque géobiologue a son propre objet et chaque géobiologue vend ses objets aussi. Donc, ça, il y a un coût aussi. Hein. Donc, nous, on préfère ne pas utiliser ça. Et puis, l'évitement est le plus simple, le plus clair et encore une fois, le plus sûr à long terme. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille.
Alors, ça fait plusieurs fois que vous citez votre école. Allez, un petit peu de publicité ne nuit pas. De quelle école provenez-vous? Je crois que vous l'avez dit à la première émission, mais depuis tellement d'eau a coulé sous les ponts.
Oui, exact. Alors, je suis issu d'un centre de formation qui s'appelle Santé Énergie Habitat et qui est situé près de Vannes, dans le Morbihan, à Plescop, exactement, pour ceux que ça intéresse. Et je sais qu'ils ont changé un peu leur technique. Moi, à l'époque, c'était des formations longues. Donc, ça se déroulait sur plusieurs week-ends et sur presque une année. Et aujourd'hui, ils ont découpé un peu ces formations pour que ça soit un peu plus ouvert à un plus grand nombre. Et donc, ce sont des petits modules. Donc, on peut faire des modules de détection, des modules que de qualité de l'air. Si on est même un constructeur ou un architecte, puis qu'on s'intéresse à cette problématique de la qualité de l'air, on peut faire que des modules sur les champs électromagnétiques. Enfin, ça a été un petit peu découpé comme ça. Donc, soit on fait tous les modules et du coup, on a la formation complète, soit on fait que des modules qui nous intéressent. Enfin, voilà, c'est une... Et donc, dans cette formation, il y a des intervenants, des professeurs, professionnels de haut niveau qui viennent nous former sur tel ou tel sujet.
Ceci dit, Monsieur Monnier, j'entends bien que la meilleure stratégie, c'est l'évitement et je vous suis bien sur ce sujet. Néanmoins, j'avais cru entendre dire que, par exemple, le gros sel pouvait absorber un certain nombre de mauvaises vibrations, en particulier en ce qui concerne le réseau de Hartmann. Est-ce que je m'abuse ?
Non, non, c'est tout à fait vrai. On peut lire ça dans certains ouvrages. Le gros sel est même pas mal utilisé. Il y a même aussi des fils de cuivre. Enfin, il y a pas mal de gens qui utilisent plein de choses comme ça, dont on entoure la maison. Alors, bon, le gros sel, moi, j'ai fait quelques tests et effectivement, ça peut changer les choses par rapport à notamment un croisement Hartmann qu'on aurait sous son lit. Ben, on peut mettre un sac de gros sel au niveau du croisement. Bon, encore faut-il identifier parfaitement ce croisement et mettre le gros sel pile poil dessus. Hein. Si vous le mettez à côté, ça ne sert à rien. Mais ce gros sel, eh bien, comme je l'expliquais tout à l'heure, va se charger de cette nocivité. Donc, au lieu que ce soit vous qui la subissez, c'est le gros sel qui va s'en charger. Mais au bout d'un moment, il va saturer de cette nocivité et il ne sera plus efficace. Ça veut dire qu'il faut le changer assez régulièrement et il faudrait pouvoir un peu justement tester, tiens, est-ce qu'il est chargé complètement ou pas chargé complètement de cette nocivité? Quand est-ce que je dois le changer? On ne sait pas trop. On peut aussi l'oublier puis du coup, ça ne sert plus à rien. C'est en ce sens où les solutions, des fois, qui peuvent avoir un intérêt sur du long terme, mais dans la praticité, ne sont à mon goût pas intéressantes et que quand on l'a identifié, on décale son lit, et ben ça ne change plus, là on n'a plus besoin à penser à tel truc, à mesurer tel truc, le lit est dans une zone neutre et on est débarrassé à long terme quoi.
Très bien, je vous remercie Monsieur Monnier pour cette dernière émission consacrée à une maison saine.
Merci à vous Louis.
J'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à vous interviewer et je pense que j'ai des retours, hein, je vous le dis, qui sont assez bons, hein. Les gens sont intéressés par vos émissions.
Très bien.
Donc je crois qu'on a fait le tour de la question.
Je crois aussi.
Si, si, une dernière émission que je vais proposer en déambulation sur RDIWA sera sur une de vos mesures sur le champ basse fréquence. Une expérience concrète avec vos instruments. Vous êtes venu vérifier si dans le studio RDIWA, nous subissions des vibrations nuisibles pour notre santé qui sortira très prochainement. Monsieur Monnier, je vous souhaite une bonne continuation.
Merci et bonne journée à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Interview. Hey, the bird. L'interview du jour.